Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Pour en train de se soucier des enfants, donc on va prier. Seigneur Jésus, merci pour les enfants que tu as donnés à chacune des familles de notre grande famille d'Église. On te prie d'être avec eux, de bénir leur temps. Seigneur, veille sur eux, mets ta bonne main protectrice, forme leur cœur, attire-les à toi. Seigneur, sois aussi avec les moniteurs, Seigneur, pour leur dévouement, pour le travail qu'ils font. Seigneur, bénis le temps qu'ils vont avoir ensemble. Amen. Et c'est le temps pour eux d'aller. Hey tout le monde, vous passez assez bien à travers la pandémie, là, la deuxième vague avec les mesures, là, je pense que dans le coin, vous avez été aussi mis en zone rouge ici. Oh, vous êtes orange, oh, ben c'est moi qui est plus rouge, là, n'ayez crainte, je me lave les mains comme il faut et on prend toutes les mesures nécessaires. On continue notre série sur les paraboles. On peut se demander quel est le trait de caractère ou la valeur la plus importante pour Dieu ou pour Jésus. Et déjà, je vous donne pas la réponse, vous l'avez déjà. Et Dieu n'est pas du tout impressionné par les choses, le nombre de choses qu'une église peut faire pour lui ou par le nombre de la grandeur des connaissances qu'on peut avoir. Dans la Bible, Dieu est impressionné par l'amour qu'on a pour lui et pour aussi l'amour du prochain. Notre parabole, la parabole du bon samaritain, de toutes les paraboles, je crois que c'est celle qui est le plus... Ah, j'ai eu un petit signal, une petite vibration. Est-ce que quelqu'un peut mettre excellent, la prochaine. On va commencer par lire les versets. Ici, j'ai marqué Luc 15, là, c'est une erreur, évidemment, c'est Luc 10. Il y a eu un petit mélange. On va commencer par lire la situation qui a amené à la parabole. C'est peut-être moi qui... Ouais. Ah, excellent. On est en voiture. Hey, le changement a été fait, Luc 10. On va commencer par lire le passage. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Le récit qu'on a ici de cette question posée à Jésus se retrouve à deux autres endroits. Évidemment, c'est dans les évangiles synoptiques, dans Matthieu et dans Marc. Je vous dis tout ça, ça on ne prendra pas la peine d'y tourner. Juste vous dire que dans Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40, on voit tous les groupes religieux, tous les mouvements venaient puis attaquaient Jésus. Le premier qui était venu, c'était les Hérodiens. Hein? Les Hérodiens, ils ont demandé, c'était ceux qui s'occupaient de charger les impôts, ils ont demandé, on est-tu obligé de payer le tribut à César? Ensuite, les Sadducéens, qui ne croient pas à la résurrection, sont venus avec l'histoire de la femme qui avait eu sept maris en demandant à la fin. Ensuite, il est dit que pour l'éprouver, pour le prendre en défaut, là, il y a un scribe qui est venu et qui a demandé quel est le plus grand commandement de la loi. Et dans Marc 12, il nous est dit que les autorités en place essayaient de le prendre en défaut. Donc, ici, quelle est la question qui est demandée? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et dans les deux autres évangiles, un petit peu différent, peut-être que les deux choses ont été mentionnées au niveau de quand ça s'est passé et que chaque auteur a décidé de sélectionner un contenu. Dans les deux autres, c'est quel est le plus grand commandement de la loi? Ici, quand il demande « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » On n'est pas encore à la définition claire de la vie éternelle comme dans Jean 3,16. Hein? Et quand Jésus est en train d'enseigner sur la vie éternelle et le fait qu'il était mort, qu'il était ressuscité, puis qu'en mettant la foi, on avait la vie éternelle, c'était à venir, c'était en projet. Les Juifs, à ce moment-là, surtout les scribes, les pharisiens, ils pensaient par la vie éternelle, c'était qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour plaire à Dieu? C'est quoi une vie d'obéissance? C'est quoi qui est le plus important qui fait que j'ai bon espoir d'être avec Dieu? Donc, quel est le plus grand commandement? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? La même réponse est donnée, mais cette fois dans Matthieu et dans Marc, mais cette fois, c'est le docteur de la loi qui donne la réponse lui-même. Et on veut faire une petite parenthèse pour dire qui étaient les docteurs de la loi. C'était les enseignants, c'était les scribes. Hein? Quand on voit les scribes, c'était tous ceux qui étudiaient, puis parmi ceux qui étudiaient, il y en avait qui se démarquaient, ils étaient les docteurs de la loi. Il étudiait l'Ancien Testament et il l'enseignait au peuple. Nicodème, notre ami Nicodème, était un des docteurs de la loi. Jésus lui a même dit, « Tu es le docteur d'Israël. » À ses yeux, c'était celui qui en connaissait presque le plus, qui avait le plus d'autorité. Mais en même temps, il lui a dit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses » en Jean 3. Et Nicodème aussi faisait partie de la secte. Là, c'est plus du côté politique, religieux. Il faisait partie des pharisiens. Donc, ils étaient les docteurs de la loi, ceux qui connaissaient le plus la parole de Dieu. Ils connaissaient ça sur le bout des doigts. Donc, ici, on a deux questions. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus retourne la question. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole? Qu'est-ce que tu y lis? Qu'est-ce que tu connais? C'était un beau défi pour le docteur de la loi et un défi qu'il s'est empressé de répondre. Et de la façon qu'il l'a répondu, il a vraiment affiché ses connaissances et sa réponse. Quand nous, avec nos concordances, on fait toutes les recherches, là, moi, je lui donne 10 sur 10 à sa réponse. Il ne pouvait pas répondre mieux. Parce qu'il a pris les deux sections où ça dit clairement, hein, dans Deutéronome 6:5, on connaît bien ça, hein? Écoute Israël, l'Éternel est le seul Éternel. Et là, ça dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force et de tout ton cœur. Donc, il a dit le premier bloc, il l'a pris au bon endroit où c'était le plus clair dans l'Ancien Testament. Et il a collé à ça, je suis l'Éternel, hein? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il y a tout plein de règles qui sont données, qui sont très instructives sur comment on vit ça d'aimer notre prochain. Donc, il a bien répondu, il a donné les deux directives. Et Jésus accepte la réponse du docteur de la loi en lui disant, « Tu as très bien répondu, j'ai rien à ajouter à ta réponse. » Il lui a dit, « Va, fais cela et tu vivras. » Il est très juste à le faire. C'est toi. Quand on donne une réponse, quand on dit, « Hey, il me semble dans la situation, là, c'est ça qu'on devrait faire, c'est ça que Dieu nous demande. Hey, c'est toi qui as donné la réponse. Tu es sûrement d'accord avec toi-même. Fait que j'appuie, je te donne l'autorisation. Vas-y avec ton idée, avec ta pensée. » Intéressant, le docteur de la loi proteste à sa propre réponse. Il dit, wow, tu me dis de faire ce que j'ai dit, mais wow, minute. Et pour se justifier, il dit, qui est mon prochain? Sa justification pour se défendre n'était pas sur l'amour de Dieu. Dans ce domaine-là, là, les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, c'était des gens pieux, c'était des gens obéissants, dévoué à Dieu. Il faisait beaucoup de choses. On va voir quelques passages dans un instant pour plaire à Dieu. Si on avait un docteur de la loi, un scribe, un pharisien, dans une église évangélique à notre époque, ça, ce serait un membre actif. Quelqu'un qui donne généreusement son offrande. Quelqu'un qui, à chaque fois qu'il y a un service à faire, il était là, puis... Le côté des docteurs de la loi, des pharisiens, mais ils faisaient ce qu'ils pensaient qu'il était bien, puis on ne peut pas dire qu'ils étaient paresseux, ils étaient engagés. Donc, première partie, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Hey, pour eux autres, là, tout, ça c'était coché, hey, c'est ça. Dieu va me donner 9,5 sur 10 là-dessus, certains. Par contre, ils n'aimaient pas beaucoup les gens. En fait, ils aimaient qu'eux-mêmes et ceux qui leur ressemblaient. Et il voulait, le docteur de la loi, il voulait restreindre le nombre de personnes qu'il devait aimer, le nombre de personnes à qui s'appliquait le mot « prochain ». C'est pourquoi il a répondu pour se justifier, « Mais c'est qui mon prochain? » Jésus est en train de dire que je dois aimer tout le monde. Ben, écoute, c'est pas faisable. Le docteur de la loi est venu vers Jésus pour le prendre en défaut, pour l'éprouver. Mais quand Jésus lui dit, « Fais ça, fais ta réponse », c'est lui qui est pris en faute. C'est pour ça qu'il a senti le besoin de se justifier. Parce que les docteurs de la loi, les scribes, les chefs religieux n'aimaient pas leur prochain. J'aime tellement l'expression qu'on a ici en Luc 18, 9 à 12. Hein? Jésus parlait de certaines personnes et c'était les scribes, c'était les docteurs, c'était les pharisiens. De certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Et Jésus a donné une petite parabole, une petite histoire tout de suite après. Il dit, le pharisien debout priait ainsi à lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » les docteurs de la loi méprisaient les gens. Ils ne faisaient aucun cas des autres. Ils se croyaient supérieurs et ils voulaient utiliser leur croyance en Dieu pour s'élever et s'éloigner du peuple, pour les regarder de haut avec mépris. On connaît bien en Matthieu 23, hein, les malheurs à vous, scribes et pharisiens hypocrites. À 8 reprises, il a dit ça. Et à chaque déclaration, là, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous empêchez les gens de venir à Dieu, parce que vous faites les choses pour l'apparence, parce que vous dépouillez les veuves, puis que vous faites des belles prières pour pareil, pour cacher vos mauvaises actions. Intéressant, dans Luc 11, versets 43 et 46, il y a encore plein de malheur à vous, pharisiens, malheur à vous, pharisiens, malheur à vous. Et là, le docteur de la loi, il dit, il n'a pas nommé mon titre en particulier, mais je fais partie des pharisiens. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, bon maître, en parlant de la sorte, Jésus, c'est aussi nous que tu outrages les docteurs de la loi. » Et qu'est-ce que Jésus a dit, vous en souvenez? Hein? « Malheur à vous aussi, docteur de la loi, vous êtes aussi pire, vous êtes dans la même gang. Ce que je dis aux scribes, aux pharisiens, ça s'adresse à vous. » Ça, c'est notre docteur de la loi. Il est là, il est venu pour prendre en défaut Jésus. Et on se souvient qu'il y a combien de leçons de vérité à tirer d'une parabole. Il y en a une, hein? C'est pas 4-5 leçons différentes, toutes égales. Il y en a une. Et ici, quelle est la raison, quel est le mot-clé pour lequel Jésus a raconté la petite histoire, la belle leçon, la parabole qu'on va voir? Pourquoi Jésus a dit ça? Exactement, c'est parce que il a dit, « Ouais, Jésus, tu me dis de mettre en pratique d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain. » Il a dit, « Et qui est mon prochain? » Donc, la parabole qu'on va voir a pour but de démontrer c'est qui le prochain que tu dois aimer. Jésus va essayer de répondre à la question, « Et qui est mon prochain? » On va prendre le temps, hein, tellement une belle histoire qu'on se plaît toujours à relire. On va prendre le temps de la lire, des versets 30 à 35. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donnant à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » On ne veut pas aller chercher tous les détails, parce que comme on a vu dans mon histoire de pêche, il y a 2 semaines, le but de l'histoire, c'est de faire quelque chose qui se tient. Hein? Mais juste pour voir... ici, là, dans l'image, c'est pas grave si... ici, on a Jérusalem. Jérusalem qui est à environ 2400 pieds. Et je suis allé là à Jérusalem et je suis allé ici, là, c'est... T'as toute une superbe vue sur... C'est le mont des Oliviers. Donc, regardez comment c'est escarpé, c'est montagneux, ça descend. Et ici... 720 pieds sous le niveau de la mer. Quand on est à Jérusalem, là, j'y étais allé fin novembre. Souvent, là, on mettait notre manteau, il y avait une petite pluie, là, il faisait entre 5 à 8 degrés quand le soleil sortait un peu, là, puis il faisait 10-12, on était contents. Et on est allé passer, là, on n'est même pas à la mer Morte, et on est allé à la mer Morte, et là, il faisait 25 à 28 degrés, on se baignait dans la mer Morte, dans l'eau salée où tu flottes tout seul, et c'est toute une différence. Et la distance à vol d'oiseau en ligne droite, c'est 23 kilomètres. Ça, c'est si on le fait en avion. Mais imaginez à ce moment-là, avec les routes, qui c'était au moins 30-35 kilomètres d'un sentier sinueux. Hein, vous voyez ici, ils ont fait une route moderne, là, mais il y a 2000 ans, quand cette route-là n'était pas là, là, c'était tous les petits chemins. Et essayez de vous imaginer comment c'était une route dangereuse avec des falaises, des voleurs qui se cachaient, qui étaient prêts à sauter sur les victimes qui peut-être étaient seules. Le passage nous dit que c'était qui l'homme qui s'était fait attaquer? C'était qui? C'était Monsieur Tout-le-Monde, hein? Souvent, on a tendance à penser, « Ah, le sacrificateur, il n'a pas arrêté parce que c'était un Samaritain qui était là. » Puis le Samaritain, il a arrêté parce que c'était un de sa gang, un de ses chums, là. Non, c'était un homme. Un homme ordinaire qu'il n'a pas voulu mentionner. Et vu qu'il n'y a rien de dit, ça devait être un homme de la place, soit qui vivait soit à Jérusalem, soit à Jéricho. Ce n'était pas un Samaritain. On a ici, en premier, un sacrificateur, hein, on peut dire un prêtre. Et les prêtres et les sacrificateurs étaient les descendants d'Aaron, qui était la tribu sur 12, qui était chargée d'offrir des sacrifices pour le service du temple de l'Éternel. Et ça, c'était vraiment une fonction très, très, très importante. C'était une fonction prestigieuse, honorable dans le service de l'Éternel au niveau de tout le peuple juif. Les Lévites, eux, c'est ceux qui étaient les descendants de Lévi et ils assistaient les prêtres dans le service du temple. Et au niveau des Lévites, depuis qu'on a cette parabole-là, on dit qu'il y a comme eu un deuxième nouveau sens. Hein? C'est on l'évite. Il a évité l'homme. Il a passé à côté. Donc, c'est une petite farce. C'est pas le sens du lévite, mais il l'a évité. Ces deux catégories de gens avaient vraiment offert leur vie à l'Éternel. C'était pas tous ceux qui étaient de la tribu ou de la descendance qui avait le privilège de servir. Mais ces gens-là avaient un engagement. Mais ils ne semblaient pas accorder autant d'importance à aimer ou à servir leur prochain. Le scribe, le docteur de la loi, qui est en train d'écouter cette histoire-là de la part de Jésus, lui aussi donnait sa vie à l'étude et à l'enseignement de la parole de Dieu. Et la mise en pratique de ces choses-là aurait dû être une chose qui allait de soi. Donc, Jésus prend l'exemple de deux catégories de personnes avec lesquelles le docteur de la loi pouvait vraiment s'identifier, engager, qui sert Dieu. Pourquoi n'ont-ils pas arrêté? Hein? On ne veut pas aller dans trop les détails. Mais on a besoin de se demander pourquoi ils n'ont pas arrêté pour aider cet homme-là. Premièrement, peut-être qu'ils pensaient qu'il était déjà mort. Une des choses qu'on voit souvent dans les commentaires, c'est que étant au service de l'Éternel, pour le service du temple à Jérusalem, Il fallait pas que tu te souilles en touchant un mort. Et si tu allais pour l'aider, tu allais être mis en confinement puis tu allais manquer ton tour de service au temple. Et ça, ça revenait, là, tu pouvais y aller juste une fois par année ou deux fois par année selon ta position. Donc, plusieurs ont dit, « Hey, il fallait pas qu'il touche parce que s'il était mort, il n'aurait pas pu servir Dieu. » Petite chose facile à observer, et Jésus a dû choisir cet élément-là, est-ce que le Lévite et le sacrificateur s'en allaient au temple? Ils s'en allaient où? À Jéricho. Donc, ils partaient de Jérusalem. Donc, s'ils demeuraient à Jéricho ou dans le coin, ils avaient fait le voyage, hein, monté 1000 mètres d'ascension, là, 1000 mètres sur 30 kilomètres à pied, là. C'est long. Donc, ils ont fait le voyage, ils ont peut-être fait leur service, et là, ils revenaient. Donc, c'était pas une question que ça les empêchait d'offrir un sacrifice. Ils revenaient de Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas arrêté? Peut-être que c'était trop de troubles. Peut-être qu'ils ne savaient même pas s'ils allaient survivre. Ça valait-tu vraiment la peine? Peut-être qu'eux-mêmes allaient se mettre dans une situation dangereuse. Il y a une hésitation qui est là et on passe tout droit et finalement après on se dit il est trop tard. Et on veut pas mettre trop de culpabilité après que vous sortez, vous dites à chaque fois que j'ai une occasion possible d'aider quelqu'un, il faut toujours que je le fasse. C'est pas la leçon à retirer, on va y venir. Mais de toute façon, Jésus raconte cette histoire et il avait une leçon. Et ce qu'il veut enseigner, c'est qu'il n'y a aucune excuse qui est valable pour ne pas aimer son prochain. Hein, le verset 33 et 35 nous parle d'un Samaritain qui, lui, a été ému de compassion. C'est qui, c'est quoi un Samaritain? Quand tu voulais lancer une insulte à quelqu'un, là, tu lui disais, t'es un Samaritain. C'était comme dire, t'es un publicain, t'es une personne, t'es une prostituée. Qu'est-ce qu'ils avaient, les Samaritains? Un Samaritain, c'est un habitant de la Samarie. Dans une carte, on a au sud la Judée, où il y a Jérusalem, Bethléem, toutes les villes très important. Au centre, il y a la Samarie et au nord complètement, il y a la Judée où on a le lac de Tibériade, là, la mer de Galilée. 700 ans avant Jésus-Christ, c'est là que ça a commencé, les Samaritains qui étaient haïs. Dans ce temps-là, il y avait le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du Nord étant la Samarie. À cette époque-là, la Samarie, c'est vrai qu'elle a mal agi. Quand 750 avant Jésus-Christ, 695, quand les ennemis venaient pour attaquer, la Samarie, elle, qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a dit, écoute, on va tous se faire massacrer. Nébuchadnezzar s'en vient, puis nous autres, on va montrer patte blanche, on va faire ce qu'ils nous disent, on va renier l'Éternel. Et ils ont été des traîtres à l'Éternel, ils ont été des traîtres à la nation juive pour éviter la persécution. Puis quand le danger de persécution partait, disons, non, nous, on a toujours été des croyants animés d'un désir d'aimer l'Éternel et de le servir et de prendre position pour lui. Donc, il abandonnait et ça a été une culture où la Samarie et les Samaritains abandonnaient l'Éternel quand ça venait trop dur. Et Jérusalem, là, tous les gens consacrés, eux, ils étaient prêts à mourir. Fait, c'est cette idée-là qui s'est développée au fil des siècles, tout le temps. Donc, les Samaritains, c'était des demi-juifs, c'était des traîtres. Du temps de Jésus, si par malheur tu naissais en Samarie, toi, ce qui s'était passé 700 ans, puis le 300, puis 200 ans, tu nais, tu es un jeune garçon. Tu n'as rien fait, puis l'Éternel, tu es prêt à l'aimer, puis tu es prêt à lire la parole, puis à être pieux, puis à être dévoué, mais tu as cette marque sur toi que tu es un Samaritain. Et là, tu grandis avec le mépris. C'est ça, un Samaritain. Mais ce Samaritain-là, que Jésus décide d'utiliser dans son histoire, il a été ému de compassion. Ça lui a donné un coup au cœur. Il a été bouleversé. Il a eu des entrailles de miséricorde. Il ne pouvait pas rien faire. Et ce qu'il a fait, aimer son prochain, c'est ça. Il s'est mis à sa place. Il s'est dit, c'est grave, c'est terrible, il va mourir. Il faut que je fasse quelque chose pour sauver sa vie. Il s'est laissé attendrir, s'est laissé toucher par l'urgence. Et dans le passage, hein, verset 34-35, il ménage aucune dépense. Il a fait pour cet homme ce qu'il aurait voulu qu'un autre fasse pour lui. Et c'est ça, aimer son prochain. C'est ça le véritable amour. Hein? On connaît Matthieu 7:12. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même, car c'est ça la loi et les prophètes. C'est ça qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse de plus important. Là, on est juste dans la parabole. Là, on en sort, versets 36 et 37. Jésus, après avoir terminé, s'adresse au docteur de la loi qui est là devant lui. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, toi, et fais de même. Quelle était la question pour laquelle Jésus a donné la parabole? Vous en souvenez? C'était quoi la question que le docteur de la loi a protesté? Et qui est mon prochain? Donc Jésus devrait avoir donné une parabole pour répondre. Est-ce que Jésus répond à la question? Qui est mon prochain? Est-ce que Jésus, à la fin, a dit, « Hey, t'as entendu mon histoire, docteur de la loi? C'est qui mon prochain? » Il aurait dû répondre quoi? C'était qui le prochain? C'était celui qui s'est fait attaquer, qui était à moitié mort. Mais ici, Jésus tourne ça. Jésus ne répond pas à la question. Au contraire, il demande lequel des trois a été le prochain de l'homme qui était tombé aux mains des brigands. Lequel a agi à l'égard de son prochain comme le demande la loi? Pas qui est ton prochain, mais qui a dans cette histoire aimé son prochain comme soi-même. Ce qui est intéressant, c'est que le docteur de la loi n'est même pas capable de dire avec sa bouche, c'est le Samaritain. Qu'est-ce qu'il répond? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. C'était trop dur pour lui. Ça y arrachait des mots de la bouche. Et Jésus enseigne qu'on doit être le prochain de n'importe qui et de ne pas faire de différence entre les gens. Et quand je préparais ça cette semaine, dans l'actualité, il y avait la jeune femme autochtone qui, on avait des vidéos qui était morte à l'hôpital, sous le mépris et la haine des infirmières qui lui envoyaient toutes sortes de choses et on n'a pas encore fait la lumière. Et je me suis dit, « Hey, cette femme autochtone-là était comme une personne stigmatisée, une personne que on dit, « Moi, j'aime tout le monde, sauf que ces gens-là, à cause, un peu comme les Samaritains, de notre perception, puis c'est ci, c'est ça, ils méritent leur malheur. » Cette personne-là a subi le mépris et la haine. Et Jésus, ce qu'il voulait mettre, c'est comme valeur, c'est « Aime ton prochain. Aime tout le monde et tu ne peux pas te permettre d'avoir du mépris pour certaines personnes et dire « J'aime beaucoup de monde, mais il y a certaines catégories de personnes que j'ai le droit de ne pas aimer. » Jésus pointe là. Jésus, il dit, « Si tu veux aimer mon prochain, toi, docteur de la loi, fais comme le Samaritain dans ma petite histoire qui, lui, a aimé tout le monde. » Le Samaritain aurait pu répondre à la haine des Juifs à son égard, à l'égard de son peuple, par le mépris et l'indifférence. Non, il y a eu un amour inconditionnel. Il a vu la personne, il a vu son besoin et il a mis de côté les disputes religieuses, les mouvements politiques associés à la religion. Jésus utilise l'ironie et démontre à ce docteur que celui que tu ne veux pas aimer en cherchant à te justifier, bien, dans mon exemple, c'est lui qui a agi correctement. Et Jésus est en train de lui dire, aime-le, le Samaritain. Le publicain que tu méprises, aime-le lui aussi. Apprends du Samaritain qui aime les Juifs malgré votre haine envers lui. Jésus répond à la première question. Que dois-je faire, hein? « Va, fais comme lui. » Verset 28, hein, il avait dit « Fais cela. » Et là, il lui répète une autre fois « Vas-y, mets-toi à l'œuvre. » À la deuxième question, « Qui est mon prochain? » Il ne répond pas directement, mais il lui montre justement les hommes qu'il croyait justifiés de ne pas aimer, le Samaritain. « Aime même le Samaritain. » Aime celui que tu te penses que tu as le droit de ne pas aimer. Et ça, pour nous qui sommes des gens qui croyons en Dieu, qui croyons en Jésus, qui avons adhéré à la foi, puis qu'on a notre désir d'aimer Dieu, d'aimer Jésus, puis on veut aimer notre frère dans l'Église, puis on veut aimer notre prochain dans la société, ça vient nous interpeller directement. On a besoin de faire attention. On va revenir un petit 5 minutes sur l'application. Mais quand on est touché par la parole de Dieu et qu'on est désireux de bien faire, notre cœur est là, on peut mal comprendre l'enseignement. Jésus, ici, il y a une vérité principale. Et si vous voulez retenir, c'est « aime tout le monde ». Jésus voulait dire au docteur de la loi qui était venu, « Aime tout le monde. » Puis toi, tu penses que tu es justifié de ne pas aimer une certaine catégorie de personnes. Mais moi, je te dis que tu es grandement dans l'erreur. Puis si tu veux savoir c'est quoi le plus grand commandement, qu'est-ce que tu dois faire pour avoir la vie éternelle, pour toi, là, ce qui s'applique, là, aime tout le monde. La leçon que Jésus a donné par la parabole, c'est pas d'embarquer tous ceux qui sont là sur le bord de la route en train de faire du pouce. Comprenez? C'est pas ça. Moi, quand j'étais jeune chrétien, puis je voyais quelqu'un sur le pouce, « Oh Seigneur, il faut le... Ah! Je suis pas comme le bon Samaritain, j'ai passé tout droit. » Si vous êtes une maman avec deux enfants dans la voiture et qui est minuit, puis vous êtes sur la route, puis vous voyez quelqu'un qui flash les routes. Jésus n'est pas en train de vous enseigner d'arrêter puis de vous mettre en danger. Je me souviens, moi, comme pasteur, que j'ai hébergé chez moi des gens qui venaient à l'église puis qui voulaient de l'aide, puis des gens qui étaient vraiment dangereux. Et quand je regarde ça, le Seigneur m'a gardé, parce que mais de mettre ma femme et mes enfants en danger, il n'est rien arrivé, là, Dieu protège. Mais je regarde ça, mais j'avais un peu de cette croyance-là qu'il faut que je devienne un secouriste, puis à chaque fois que quelqu'un a besoin d'une aide, c'est à moi. C'est pas la leçon que ce passage veut nous enseigner. C'est une histoire pour enseigner une leçon, une vérité, et on veut mettre la vérité en pratique, et c'est pas nécessairement de prêter assistance à tout le monde. Hein? On veut pas devenir des secouristes ou des ambulanciers évangéliques. Quelle est la leçon? Aime Dieu et aime ton prochain et aime tout le monde. Aime tout le monde. Et si toi, en pensant à aimer ton prochain, il y a des gens qui disent, ah, pas lui. Oh non, lui, j'y pense. Non, je suis justifié de ne pas l'aimer, de ne pas avoir ce respect de base, cette attitude ouverte où je donne la chance au coureur. Ben, Jésus dit justement, c'est lui qu'il faut que tu aimes en aimant tout le monde. Le but, la leçon profonde dans notre cœur, Jésus veut identifier, il veut qu'on voit notre mépris envers certaines personnes, nos préjugés, démasquer, nous qui croyons en Dieu, nos pensées religieuses, évangéliques, qui condamnent injustement des gens que l'on devrait aimer et être ému de compassion. Je me souviens, dans les années 90, j'étais pasteur d'une église à temps plein et le sida grandissait, puis il y avait des homosexuels qui mouraient du sida. Moi, j'étais très mal à l'aise avec ça, puis je regardais, je me disais, il y a quelque chose qui cloche. Quelle était la position des évangéliques? Aux États-Unis, au Québec, quand on voyait ces gens-là qui mouraient du sida, qu'il n'y avait pas encore de traitement, qu'est-ce qu'on disait? C'est un jugement de Dieu, bien fait pour eux autres. Oh, regarde, ils vont dans l'homosexualité, c'est la bestialité, c'est de la dépravation, puis ils sont malades, puis c'est un jugement, une condamnation de Dieu, puis... Hey, est-ce que c'était l'attitude que Jésus avait dans le ciel? On regarde ça puis on dit, on peut pas croire qu'on a cru ça. On n'avait pas beaucoup d'amour puis pas beaucoup de compassion pour ces gens-là. Même si ils sont pas selon nos valeurs puis selon nos croyances, est-ce que nous, comme croyants évangéliques, on est là pour juger les gens, les condamner, de dire, toi, tu as droit à ma gentillesse, toi, tu as droit à ma bonté, mais si tu réponds pas à mes critères, eh bien, tu vas subir un peu le feu du ciel, hein? En Jean, chapitre 4, à la fin et début du chapitre 5, ça dit que tu peux dire que dis pas que t'aimes Dieu si t'aimes pas ton frère que tu vois, parce que Dieu est dans le ciel, tu le vois pas, mais ton frère, lui, il est là bien concret, hein? Donc, l'apôtre Jean dit, si tu dis que t'aimes Dieu, faut que t'aimes ton frère. En Jacques, on va un petit peu plus loin. Jacques 8 à 12. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Donc, c'est vraiment la vérité, le résumé, la parabole. Si tu dis la loi royale, la plus grande loi, celle qui est au-dessus de toutes, c'est la même chose que Matthieu 7, 12. Aime ton prochain comme toi-même. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous accomplissez la loi royale, vous faites bien. Si tu dis, j'aime mon frère, j'aime mon prochain, c'est correct. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamné par la loi il manque un mot, parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Donc, dans le passage, dans Jacques, c'est que les chrétiens décidaient que ceux qui venaient dans l'Église, qui étaient riches, hein, les riches qui étaient durs envers eux autres, qui les maltraitaient, qui les volaient, quand il arrivait un riche tout bien habillé, il leur donnait la première place, puis il aurait dû mal agir envers eux, ça aurait été plus logique, mais par peur, par toutes sortes de fausses croyances, il prenait soin du riche, puis quand il arrivait un pauvre, hein, misérablement vêtu, mais c'était un frère dans la foi qui venait dans les rassemblements à l'église, il mettait là en arrière de l'escalier dans le coin pour pas qu'on le voie. Exception de personne. Décider que oui, j'aime tout le monde, mais il y a des gens que je décide de ne pas aimer. Si on applique cette vérité-là dans l'Église, dans les relations entre les frères et sœurs, on peut avoir des gens avec qui on s'entend bien, puis on a des affinités, puis ça, c'est une bénédiction. C'est des gens qu'on est plus proches. Et on n'est pas obligé d'être proche de tout le monde. Mais on ne peut pas faire une différence de dire mon amour de base, je le donne envers plusieurs personnes, mais je fais une exception de personne. Je dis lui, il n'en aura pas l'amour. Lui, ça va être la dureté, l'intransigeance. L'amour travaille pour aider les gens, pour s'accepter, pour l'unité. Bien des fois, comme chrétien, on a beaucoup de standards élevés au niveau de la morale, au niveau de l'honnêteté, au niveau de la justice. Et on veut être confortable et pas avoir des relations avec des gens qui ont des valeurs différentes ou carrément contraires aux nôtres. On s'isole, on évite ceux qui sont différents de nous. Et quand on fait ça, on est comme le sacrificateur, on est comme le lévite, on est comme le docteur de la loi. On décide c'est qui notre prochain qu'on va aimer. Puis on dit, hey, je ne suis pas pour aimer tout le monde. Et c'est ce que Jésus veut nous enseigner. Jésus, dans notre cœur, il veut cibler ces gens qu'on pense qu'on est justifié de ne pas aimer. Et vous savez, pour notre cœur, se tenir seulement avec ceux qu'on aime, avec ceux qu'on est confortable, ceux qu'on aime naturellement, c'est pas bon pour le cœur. Parce que rapidement, même avec ces gens-là, on va avoir des sources de tension, on va avoir des disputes, parce que notre cœur n'est pas habitué à exercer la bonté, la patience, la tolérance, de voir, hey, écoute, c'est moi qui ai de la misère, Seigneur, oui, je vais apprendre à aimer cette personne-là. Ça ne veut pas dire qu'il va devenir mon plus grand ami, mais l'amour de Dieu va faire une différence dans ma vie. Dernier verset. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et la phrase après, c'est « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et ici, le mot « parfait », ce n'est pas la perfection d'aucune faute. C'est d'être complet, c'est d'être mature. Et comme chrétien, on a notre relation avec Dieu. C'est facile de dire « J'aime Dieu. » Mais notre Dieu, Jésus, nous dit « Aime ton prochain. Aime tout le monde et mets tes efforts à aimer celui que tu crois que tu es justifié de ne pas aimer. Jésus veut attaquer nos condamnations, nos faux jugements, notre mépris. Et il y a bien des gens dans la société que quand on pense à eux, on dit, aux autres, il n'y a rien à faire, ils méritent leur malheur, c'est de leur faute ce qui leur arrive. Et on n'est pas des enfants de Dieu quand on fait ça. On n'a pas les entrailles de miséricorde de notre Père. On n'est pas en train d'agir comme des disciples de Jésus. Jésus, quand il voyait quelqu'un qui était mal pris, qui était misérable, une prostituée, des publicains, des gens rejetés, des gens malades, il était ému de compassion, puis il était attiré vers ces gens-là. Puis quand ces gens-là venaient vers lui, il ouvrait ses bras, il ouvrait son cœur. Et c'est ça. Qui est mon prochain? Mon prochain, c'est tout le monde. Et celui que je dois aimer comme mon prochain, c'est celui que naturellement, j'ai beaucoup de difficultés. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, oui, on veut venir à toi et te remercier pour cette histoire qui a traversé les siècles, Seigneur. On ne veut pas passer à côté de la leçon. Qui est mon prochain? D'aller et de faire de même, comme ce Samaritain dans l'histoire qui a été ému de compassion, qui a passé par-dessus la haine qui était envers lui. Seigneur Jésus, on veut te dire que bien des fois, on est des pharisiens, on est des scribes, on est des docteurs de la loi. À cause de notre adhésion à toi, Jésus, à cause de notre désir de lire la parole, bien des fois, on se pense correct, on pense que d'aimer Dieu, d'aimer Jésus, hey, ça, je le fais, je suis déjà correct là-dessus. Mais tu nous dis que notre amour pour toi va se manifester par notre amour du prochain, par notre amour de celui que on aimerait être justifié de ne pas aimer. Et toi, tu nous dis, c'est celui-là que je veux que t'aimes encore plus. C'est là que tu vas vivre, connaître et appliquer mon amour. Un amour pour les âmes, un amour pour les gens, une compassion. Seigneur Jésus, applique ça dans nos cœurs. Moi le premier, on en a tous besoin. À toi la gloire, Jésus. Amen.